Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Focus de Daily Movies, émission très spéciale vu qu'on va parler d'un de mes réalisateurs préférés. Et aujourd'hui, notre focus va se faire sur Ari Aster. Alors voilà, pour ceux qui tomberaient sur cet épisode et qui ne connaisseraient pas le concept de Focus, c'est très simple, ça se déroule en trois parties. Premièrement, je vous fais une biographie de la personnalité du cinéma à laquelle on s'intéresse, voilà, c'est un truc très factuel, tout simplement sa vie, comment il en est arrivé là. Ensuite, on a ce qui compose son cinéma, qu'est-ce qui fait que, bon là en l'occurrence, le cinéma d'Ari Aster est le cinéma d'Ari Aster, qu'est-ce qui fait que son cinéma est unique, un peu sa marque de fabrique, voilà, si j'ose dire, et ensuite je fais une critique de ses œuvres, tout simplement. Je tiens à dire quand même pour ce film, pour cet épisode pardon, qu'on ne parlera pas de son dernier film qui est Boys Afraid, puisque un épisode, une critique du film arrivera la semaine prochaine, mais je vais lui dédier un épisode, voilà, en plus de cet épisode là donc pour le coup pas de Boys Afraid dans cet épisode, mais rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Bref, commençons tout simplement la biographie d'Ari Aster. Voilà, c'est un enfant qui naît à New York, voilà, dans une famille d'artistes, puisque son père est musicien et sa mère poète. Il naît le 15 juillet 1986, voilà, et donc il alterne entre New York, le Nouveau-Mexique et Chester, qui est une ville en Angleterre, voilà, et donc il vient d'une famille juive. Bon, voilà, c'est vrai que d'ailleurs il avait décrit Boys Afraid comme un peu le Seigneur des Anneaux en version juive, donc c'était assez rigolo. Bref, mais donc du coup, oui, à l'adolescence, en fait, comme beaucoup de gens, hein, il découvre les vidéoclubs et notamment la culture un peu film de genre dans les vidéoclubs, et donc du coup, il commence à se passionner de ça et à écrire des scénarios. Et en fait, il fait son premier court-métrage qui est Tale of Two Teams, qui soumet à l'American Film Institute. Et donc en fait ce court-métrage lui vaut une bourse en fait pour qu'il puisse étudier à l'AFI, voilà. Et donc pendant ses études, bien évidemment, il réalise des courts-métrages, mais le véritable tournant, on va dire, c'est en 2011 quand il réalise son film de thèse à l'AFI, qui est, c'est très dur à dire, on va en parler tout à l'heure, il y aura une critique dessus, mais qui est The Strange Things About the Johnsons, parle d'un fils qui abuse sexuellement de son père, voilà. Donc un court-métrage qui part d'une relation incestueuse, qui en plus dans ce sens-là est assez rare, vraiment. Et pour le coup, ce film est projeté dans pas mal de festivals, notamment au festival de Slam Dance où il débute. Et ensuite, il va fuiter en ligne, voilà. Je crois que il va être mis sur YouTube notamment. Et en fait, il va y avoir des réactions absolument démesuré, parce que tout le monde va être à juste titre assez choqué, assez remué par le film, on en reparlera. Et donc en fait c'est un peu comme ça qu'il se fait connaître, et donc par la suite entre 2016 et 2011 il va réaliser d'autres courts-métrages, dont notamment Munchausen, que je vous conseille, qui est un court-métrage tout est trouvable sur YouTube sauf Beau, voilà, malheureusement, je sais pas, peut-être en prévision de la sortie de Boys Afraid ils nous ont retiré Beau, peut-être que voilà, c'est voulu, je sais pas, mais bref. En tout cas, moi j'ai pu voir Beau à l'époque sur YouTube. Là, il est plus là apparemment, mais voilà. En tout cas, moi j'ai pu voir Beau. Mais oui, du coup, en vrai, de ce que je vous conseillerais, ouais, je dirais quand même Munchausen, qui est un truc. En vrai, c'est assez. Il y a quand même, voilà, les thématiques de la famille qui lui sont chères, mais on en reparlera, mais c'est surtout qu'il fait un peu un live action, il fait un court-métrage, il me semble qu'il n'y a pas de dialogue, et en gros ça reprend un peu le style Pixar en live action, voilà. Bon, bref, oui, effectivement, c'est plutôt pas mal. Et Beau, je vous l'aurais conseillé, mais il n'est plus disponible. Et bien évidemment, son film de thèse, on en reparlera. Mais bon, ça, il faut être accroché quand même. Et donc, en 2018, autre tournant pour lui, puisqu'il sort son premier long métrage, Hérédité. Hérédité, porté notamment par Toni Collette ou encore Alex Wolff, qui, pour le coup, aujourd'hui est assez connu, voilà, qui a pris un petit peu de grade. Voilà. Et donc, c'est un succès tant critique que commercial. Ça devient le film le plus rentable d'A24, et donc toujours chez A24, d'ailleurs tous ces longs métrages ont été produits chez A24, mais donc du coup toujours chez A24, il sort son deuxième long métrage Midsommar, voilà, en 2019, l'année d'après, cette fois-ci porté par Florence Pugh, voilà, et pour le coup, pareil, des très bonnes critiques, un très bon succès. Voilà, et pour Midsommar, il y aura même une director's cut qui dure environ, alors si je veux pas vous dire de bêtises, 20-25 minutes de plus que j'ai vu pour le coup, on pourra en parler, mais voilà. Mais oui, une director's cut qui dure 20-25 minutes de plus, voilà, et qui rajoute des trucs assez cool, hein, vraiment des scènes plutôt cool. Et donc, le dernier film en date, c'est Boys Afraid qui sort la semaine prochaine, au moment où vous écoutez ça, enfin au moment où l'épisode sort en tout cas, dans une semaine. Et aussi, Ari Aster a décidé de se lancer dans la production. Voilà, il s'est lancé dans une boîte de prod, notamment, j'ai plus son nom, c'est terrible, mais à l'Étrange Festival, on avait un très bon film qui s'appelait Sick of Myself. Bah, le prochain film du réalisateur de Sick of Myself est produit par Ari Aster. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ce film s'appellera Dream Scenario. Ce sera avec Nicolas Cage. Et en gros, le pitch, c'est le suivant. C'est un professeur devient subitement une célébrité en apparaissant la nuit dans les rêves de tout le monde. Voilà. Donc, pour le coup, plutôt curieux de voir ce projet parce que bah, clairement, il a du savoir-faire. Et puis, c'est aussi produit par Aster. Donc, bon, voilà. Je pense que l'association Christopher Borgli et Ari Aster peut pour le coup donner un truc très cool. Et donc, j'ai très hâte de voir ça. Et donc, voilà, oui, comme j'ai dit, cette année, Boys Afraid qui s'appelait Disappointment Boulevard qui à l'origine hein, mais qui a changé de nom et qui bah, pour le coup a Joaquin Phoenix en tête d'affiche voilà sachant que au moment où Joaquin Phoenix est en pourparlers c'est vrai que il vient de gagner l'Oscar donc même Ari Aster était pas du tout sûr en fait voilà de l'avoir mais pour le coup il a réussi et c'est tant mieux mais bon on en reparlera la semaine prochaine je vous fais un peu de teasing et donc concernant les films qui ont inspiré Ari Aster il en a un petit peu parlé il y a Rosemary's Baby de Polanski il y a Fanny Alexandre de Bergman il y a Persona du même réalisateur il y a Une question de vie ou de mort de Powell et Pressburger il y a 45 ans de Andrew Hagg que pour le coup je ne connais pas il y a A Bright Summer Day de Edward Yang, il y a Le Temps de l'innocence de Scorsese, il y a Le pianiste de Haneke, il y a 8 et demi de Fellini et il y a Répulsion de Polanski. Voilà, de Polanski, c'est pas tip top Paris, mais bon. Bref, on va essayer de faire abstraction et on va se concentrer sur son cinéma. Et donc, qu'est-ce qui fait que le cinéma d'Ari Aster est le cinéma d'Ari Aster? Quelle est sa marque de fabrique? Alors d'abord, je vais vous lire ce qu'IMDB propose, voilà, et après, je vous proposerai moi personnellement ce que j'en ai à dire ou ce que j'ai envie de rajouter. Mais donc, IMDB nous dit un mix entre de l'horreur et un humour extrêmement noir, ce qui est plutôt vrai. Ce qui est un peu moins vrai, je trouve, sur Hérédité Midsommar, ce qui l'est totalement sur Boys Afraid, vraiment, c'est vraiment le cas. Voilà, après, c'est vrai que même si on parle de ces courts-métrages, il y a quand même déjà une vision assez dark, assez noire en termes d'humour qui se déploie sur certains courts-métrages. Donc, pour le coup, je suis d'accord avec ça. IMDB nous dit également que c'est un cinéma où on voit beaucoup de violences graphiques, ce qui est vrai, ce qui est vrai, voilà, après. Enfin, il y a plus choquant, clairement. Je sais pas, c'est pas ce que j'aurais mis moi personnellement dans qu'est-ce qui compose le cinéma d'Ari Aster. Ensuite, ils nous disent qu'il y a énormément de plans séquences, et ça, c'est une vérité. Enfin, voilà, c'est vraiment un des éléments fondateurs, je pense, du cinéma d'Ari Aster. Cette faculté à vraiment laisser tourner la caméra, à aussi faire des plans qui sont plutôt larges. Voilà, je pense notamment à Midsommar, il y a beaucoup de plans très 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 larges, bien évidemment, il y a aussi des plans resserrés, mais c'est vrai que voilà, il laisse beaucoup d'espace à ses acteurs, il laisse beaucoup de. Enfin, alors beaucoup d'espace à ses acteurs, oui et non, on en reparlera, mais oui, pour le coup, ouais, beaucoup de. Ça laisse beaucoup tourner, voilà, on laisse vraiment. Moi j'aime beaucoup, hein, de toute façon, en termes généraux, les films qui laissent beaucoup tourner, mais je trouve qu'encore plus dans des films d'horreur, ça apporte des vrais trucs, et je pense à. Il n'y a pas beaucoup de jumpscares dans Hérédité, hein, mais franchement, les 2-3 qu'il y a sont absolument bien timés, justement parce qu'il a cette gestion du plan séquence et qui voilà, de ce tempo horrifique en fait, qui est absolument folle. Et oui, du coup, voilà, je suis entièrement d'accord avec ça, avec ces nombreux plans séquences. Et pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose. Et donc, le dernier, c'est un intérêt pour les religions païennes et les cultes, ce qui est vrai sur Hérédité et Midsommar, ce qui est moins sur Boys Afraid parce que pour le coup je pense pas que la religion juive soit considérée comme une religion païenne après peut-être que je dis une énormité mais voilà pour le coup je ne pense pas et donc C'est vrai pour ces deux premiers, c'est pas vrai pour Boys Afraid. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai à dire moi personnellement ? Alors déjà, je trouve que le point le plus important à souligner, en tout cas de ma vision du cinéma d'Ari Aster, c'est cette capacité à vraiment venir installer un malaise assez viscéral, un malaise qui, en mode pas « oulala, je suis gêné comme si quelqu'un a fait une blague de merde », mais vraiment un malaise qui se rapproche plus de, voilà, du mal-être et qui vient vraiment remplacer la peur en fait. Voilà, c'est un malaise très particulier, le malaise de Ari Aster. Et pour autant, en fait, il est très doué là-dedans et c'est un de ceux qui vraiment me font ressentir ce truc-là où, voilà, c'est très rare, hein, les réalisateurs qui arrivent à me faire ressentir ce malaise-là, ce mal-être-là devant les films, et, ce truc où, voilà, ça va tellement loin, en fait, que ça remplace la peur et je trouve ça même encore plus terrifiant comme sensation que la peur. Mais du coup, oui, ce malaise qui va plutôt s'inscrire dans quelque chose d'extrêmement dérangeant, extrêmement malsain, voilà, et qui est terrible et qui, moi, me fout par terre à chaque film, vraiment. Je pense que la première fois que j'ai ressenti ça devant un film, c'était devant Midsommar. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un de mes films préférés, parce que ça a été un des films qui m'a forgé. Et voilà, pour le coup, ouais, c'est un des meilleurs dans cette matière-là, clairement. Ensuite, on a, bon, pour le coup, c'est plus un signature move. Voilà, on en parlait avec Makoto Shinkai la semaine dernière, mais c'est ce. Je crois qu'il le fait pas dans Boys Afraid. Enfin, c'est moins évident, en tout cas, que dans les deux autres. Mais il y a vraiment ce truc-là où il va retourner la caméra, je dirais. 180 degrés, je pense. Bref, en gros, c'est comme si vous imaginez une caméra posée au plafond, des personnages qui bon, bah, dans Hérédité, c'est Tony Toilette qui marche, et en fait, bah, la caméra va la suivre, et donc, du coup, va finir par, en fait, se retourner, du coup, en la suivant. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais moi, j'ai vraiment les plans en tête, pour le coup, je pense pas que vous les... Enfin, je sais pas si ceux qui ont vu les films, je pense que vous savez de quoi je parle. Dans Midsommar, c'est ça, mais avec quand ils sont en voiture, quand ils voyagent, voilà. Ensuite, bon, qu'est-ce que je peut rajouter, je sais pas si c'est vraiment très très important, mais il aime bien s'entourer des mêmes personnes, voilà, notamment son chef opérateur, j'espère que je le prononce bien, c'est Paweł Pogorzelski, et son compositeur qui est Bobby Kirk, je crois que ça se dit comme ça, j'ai un doute, je suis désolé si je le dis mal, plus Bobby Kirk, voilà, encore une fois, bref, je ne sais pas prononcer ce nom de famille, je suis désolé, mais bon, voilà, il aime bien s'entourer des mêmes personnes. Et je vous dis ça, mais par exemple, son chef op, il est avec lui depuis son film de thèse, quoi, donc ça fait beaucoup, clairement, depuis 2011, ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble et voilà, ça n'a pas changé. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Bah, c'est un peu lié à cette question de mal-être dont je vous parlais, c'est qu'en fait, je pense que Ari Aster fait partie des gens, en fait, pour qui le cinéma, c'est vraiment un exutoire. C'est un moyen de vraiment... ça remplace son psy, en fait. Voilà, lui, il y en a qui vont chez le psy, il y en a qui font du cinéma. Et Ari Aster, ça fait partie de ceux qui vont pas chez le psy et qui font du cinéma, pour le coup. Et ouais, non, il met toutes ses angoisses, tous ses démons dans ses films, et je pense que ça se ressent bien et que c'est pour ça que c'est aussi gênant. Voilà, il faut savoir que pour Hérédité, il avait déclaré que, en gros, il s'était inspiré d'un cauchemar de sa famille où il y avait soit une personne qui mourait, soit qui disparaissait, ou qui changeait brutalement du jour au lendemain, qui est un cauchemar récurrent chez lui. Et pour Midsommar, il l'a écrit après une rupture amoureuse. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un mec qui, pour le coup, en termes de sublimation des traumatismes pour se transformer ça en œuvre d'art, qui a perfectionné le truc, mais à un point, bref, ça atteint des sommets. Et donc en fait, bah, on sent qu'il y a un esprit torturé et qu'il y a des films absolument, absolument torturés aussi, quoi. Tout aussi torturés, très clairement. Voilà, enfin, je sais pas si j'aurai des trucs à rajouter sur qu'est-ce qui fait que le cinéma d'Ari Aster est le cinéma d'Ari Aster. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, pour moi, il y a vraiment le truc le plus important, c'est... Ah si, j'ai oublié un truc fondamental, c'est le rapport à la famille, clairement. Peu importe. Enfin, comment il est présenté, il y a toujours un rapport à la famille. C'est vrai que... ouais, même au-delà du rapport à la famille, le rapport du traumatisme familial, je trouve, qui est présent dans son film de thèse, qui est présent même dans ses courts-métrages, hein, même Munchausen, tout ça, qui est présent dans Hérédité, dans Midsommar, dans Boys Afraid, il y a le rapport à la famille, le rapport au traumatisme familial. Et voilà, je trouve que voilà. Si je devais vraiment faire la triplette de ce qui résume Ari Aster, ce serait effectivement ce mal-être, voilà, qui doit avoir en lui et qui l'insuffle à ses films. Les plans séquences et le rapport à la famille, voilà, c'est un peu complexe comme rapport. Et en fait, paradoxalement, moi, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer pendant le Champs-Élysées Film Festival, dont je vous ai parlé pendant ce podcast, et d'ailleurs je vous ai parlé de la masterclass d'Ari Aster. Et en fait, c'est un mec adorable. C'est-à-dire qu'il venait d'arriver de Los Angeles, il était totalement claqué, jet-lagué et tout, et il a vraiment pris des photos avec tout le monde, signé tout ce que les gens voulaient signer. Le mec est adorable. Et pourtant, il fait des films très dérangeants. Voilà. Mais bon, c'est parce que justement, je pense que voilà, il arrive à mettre ses démons dans le cinéma. Et du coup, il peut être bah, quelqu'un de. Pas quelqu'un de normal, parce qu'il y a toujours des démons, vu que bon, bah, quand on regarde ses films, clairement, il n'a pas fini de tout évacuer. Mais quelqu'un de très gentil, très cordial, très sympathique, un très bon humain, finalement. Allez, on va maintenant pouvoir passer aux trois critiques de ce podcast. Et on commence tout de suite avec le film de thèse d'Ari Aster. C'est un court-métrage et c'est. The Strange Things About the Johnsons. Dans la famille Johnson, tout semble ordinaire en apparence. Un jour, Sidney Johnson surprend son fils en train de se masturber. Suite à cette situation gênante, il lui explique que c'est tout à fait normal et que tout le monde fait ça. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce fils se masturbait sur une photo de son père. Bon, déjà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus quand vous entendez ce synopsis? Je pense que ça annonce la couleur. Voilà, je pense que ça annonce la couleur, je pense que... bon, voilà, bref, vous vous doutez que c'est pas un film très agréable à regarder, voilà. Sauf qu'à l'époque, moi j'étais... pas forcément prêt à voir ça, voilà. Je crois que j'étais au courant que ça parlait d'inceste, mais en fait, enfin ça, j'étais pas forcément au courant ce que je viens de vous lire. Et voilà, enfin, ouais, j'étais pas prêt, on va dire, voilà. Bon, j'étais pas prêt. Ce qui fait que du coup, bon, voilà, j'ai été, c'est un des rares films où j'ai pleuré de choc parce que. Parce que je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu, clairement. L'autre où ça a fait ça, où je peux m'en souvenir, après il y en a un, je crois que j'ai pleuré de choc, mais après coup, c'était Martyr de Pascal Laugier. Parce que, en fait, enfin, d'ailleurs, j'avais fait un épisode dessus à l'époque, tout début de mon podcast. Et c'était un des premiers trucs aussi graphiquement violents que je voyais. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, je n'ai pas forcément trop digéré le film. Voilà, mais bref. Et non, sinon, l'autre truc, c'est Cannibal Holocaust, la scène de la tortue, où à la fois j'étais en larmes de choc et en même temps, j'avais envie de vomir tellement c'était ignoble. Mais sinon ouais c'est le seul autre film qui m'a fait un peu pleurer de choc et en soi c'est très dur à regarder mais ça se regarde clairement mais c'est juste que c'est tellement bien écrit c'est magique enfin magique attention je dis pas que la relation du film est magique elle est horrible mais en fait son écriture à lui est folle tout simplement et je vous ai lu le synopsis ça c'est la première scène et je me souviens de cette première scène mais l'électrochoc que ça m'a fait quand j'ai vu la photo du père dans les mains du fils mais c'est absolument fou en fait et il y a ouais, il y a un génie dans le tempo, dans la réalisation, dans l'écriture, c'est absolument dingue. Et en fait, tout de suite après, on va retrouver ce que je vous disais. Hein, on a la triplette. Dès la scène d'intro, on a la relation de malaise. On a la relation traumatique, je sais pas si ça se dit, avec la famille. Et ensuite, on a un plan séquence, voilà, d'ailleurs, qui est aussi horrible dans sa finalité. Mais ce film est vraiment pas agréable à regarder. Hein, je vous le dis, c'est un excellent film, mais c'est pas du tout agréable à regarder. Mais donc ouais, en l'espace de quelques minutes, on a vraiment les trois fondamentaux du cinéma d'Ari Aster dans son film de thèse, voilà. Et je pense que c'est pas un hasard, voilà. C'est pas un hasard si pour le coup ça apparaît dès le film de thèse. Je pense que voilà, il y avait déjà tous ces éléments-là en lui qui l'ont conduit à faire des films, notamment Hérédité Midsommar. Et non, en fait, c'est un véritable drame familial en fait, parce que petit à petit, on se rend compte que la mère est au courant et qu'elle fait absolument rien. Et c'est horrible. Il y a vraiment une scène. En fait, c'est un film qui, en fait, pour vous expliquer, en fait, je dis beaucoup trop de fois, en fait, mais pour vous expliquer, et je me calme, et j'essaie d'être calme, rationnel en parlant du film, même s'il m'a beaucoup secoué. Pour vous expliquer pourquoi je trouve que c'est du génie, c'est juste que c'est un film qui va pousser les curseurs très très loin, voilà, qui va pousser les curseurs à des niveaux vraiment où peut-être qu'on n'avait pas forcément envie de voir ça, peut-être qu'on n'avait pas envie qu'un film vienne nous chercher là, mais qu'il le fait tout en intelligence, tout en finesse, tout en pas en délicatesse, tout en ouais bon voilà en grande qualité d'écriture et notamment ces scènes traumatisantes, notamment je pense à cette scène de la baignoire, je pense à les dialogues entre le fils et le père qui sont juste ignobles, mais vraiment en fait Bah le fils va limite se faire passer pour la victime alors que c'est lui l'agresseur, quoi. Oui, mais c'est pour toi que je fais ça, je sais pas quoi et tout. Enfin, je vous avoue que j'ai vu le film il y a peut-être 2 ans, je pense, je sais plus. 1 an et demi, 2 ans, peut-être, voilà. Ouais, je sais pas, même peut-être plus. Faut que je vérifie. Mais donc, oui, enfin voilà, il y a vraiment cette espèce de victimisation-là du fils, en fait, qui est absolument horrible et qui, pour le coup, est assez commune, hein, dans ce genre d'abus. Et donc, en fait, pour faire simple, oui, il y a énormément de cruauté qui se dégage de la part du fils, de la part des scènes du film, de la part des dialogues, voilà. Et c'est pour ça que, notamment si vous avez vécu des relations abusives, c'est pas une bonne idée de voir ce film, voilà. Déjà que moi je l'ai vu dans une période de ma vie où j'allais pas super bien. Je viens de vérifier, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et bon bah voilà, ça m'a assez secoué. Mais du coup oui, si vous avez vécu des choses dans ce registre-là, enfin ne regardez pas le film, ça va vraiment vous faire beaucoup de mal parce que justement c'est juste, c'est intelligent, c'est percutant. Voilà, il y a déjà un vrai talent, une vraie patte cinématographique, voilà, que ce soit dans sa réalisation, dans sa direction d'acteur aussi, hein, notamment Billy Mayo qui malheureusement nous a quittés et qui jouait Beau dans le court-métrage d'origine de Boys Afraid, qui aurait dû reprendre a priori le rôle dans le long-métrage, mais qui n'a pas pu du coup malheureusement, mais qui voilà qui est très bon dans ce rôle de père abusif. Même le fils est très bon, la mère est, enfin je très bien. Tout le monde est très bien en fait dans ce film, juste ils montrent des choses horribles mais en tout cas ils sont bons dans ce qu'ils font. Voilà, c'est déjà peut-être bref, je sais pas si ça sauve la chose, voilà. Mais en tout cas, en fait c'est peut-être celui où je trouve que c'est limite le plus important, malgré les 2 autres, hein, malgré Hérédité et Midsommar. Mais c'est peut-être limite le film où je trouve le plus important de mettre un gros trigger warning, vraiment de faites attention en fait. Enfin voilà, si vous êtes facilement choqué au cinéma ou si vous avez vécu des viols ou des violences sexuelles, c'est pas du tout le bon film à regarder. Maintenant voilà, tout en étant un film très compliqué à voir, c'est un film qui pour le coup m'a claqué la gueule à l'époque où je l'ai vu. Claquer la gueule par son sujet, que j'avais jamais vu traité de cette manière-là, claquer la gueule par l'esthétique, voilà, d'Aster, déjà ce qu'il arrive à développer, claquer la gueule par énormément de choses, par son écriture, son jeu, enfin tout en fait, et je pense qu'encore enfin aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, ça reste mon court-métrage préféré. Voilà. Moi j'avoue que j'aime bien les films qui viennent un peu me bousculer, il y en a, c'est un peu trop fort. Lui, ça a été un peu trop fort sur le coup, mais voilà, bref, c'est. Voilà, le film est très doué pour venir bousculer son spectateur et je sais pas si je le reverrai, j'avoue, peut-être, voilà, pour l'occasion de la sortie de Boys Afraid, mais oui, effectivement, c'est pas facile à regarder, voilà, il est trop sur YouTube, je sais pas si vous pouvez avoir des sous-titres français par contre, voilà, pour une bonne compréhension de l'anglais, mais il est trop facilement en tout cas, ça c'est sûr, et voilà, je pense que oui, à l'heure actuelle, il s'agit toujours de mon court-métrage préféré, voilà, même si j'aime beaucoup T'es mort Hélène, dont j'ai dû parler dans ce podcast, c'est sûr, voilà, mais effectivement, même si j'aime beaucoup T'es mort Hélène, celui-là reste quand même au-dessus et je trouve que c'est le court-métrage le plus maîtrisé que j'ai vu dans ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à le voir si vous n'êtes pas facilement choqué. Si vous avez vécu des choses comme ça ou si vous êtes facilement choqué, évitez, c'est pas une bonne idée. Allez, on va maintenant passer au premier long-métrage d'Ari Aster avec Hérédité. I just don't want to put any more stress on my family. Lorsque Hélène, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée, une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d'échapper. Alors, Hérédité, je l'ai vu après Midsommar d'ailleurs, je crois, il me semble, voilà, mais ça n'en reste pas moins un chef-d'œuvre, voilà, parce que Ari Aster n'a pas fait de mauvais film, clairement. Bref, mais oui, quelques anecdotes sur Hérédité, il faut savoir déjà que Toni Collette, enfin surtout, en vrai sur Toni Collette dans Hérédité plutôt, en gros elle a déclaré que c'était... Bah, en fait, le film où en gros elle avait l'impression que le réalisateur avait plus préparé en amont en fait, c'est-à-dire qu'apparemment Ari Aster sur un plateau c'est exactement ce qu'il veut, c'est exactement où il veut aller et tout est très précis en fait, voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure quand je disais sur les plans séquences qu'il laissait beaucoup d'espace à ses acteurs, oui et non, du coup voilà, oui et non, voilà, à la fois bon c'est vrai que ça laisse beaucoup tourner, mais en même temps apparemment il sait exactement ce qu'il veut, donc pour le coup ça peut être un peu perturbant. Et aussi il faut savoir que bah, toujours Toni Collette a des déclaré en fait, elle a dit à son agent, écoute, tu ne me m'acceptes que des rôles qui, bah en fait, sont pas éprouvants. Tu m'acceptes des rôles, voilà, où un peu, voilà, des rôles joyeux, des rôles pas super contraignants, pas qui demandent pas des efforts de malade, voilà, pas trop plombant, voilà, c'est ça que je cherchais. Et en fait, elle a reçu le script d'Hérédité et elle a dérogé à cette règle. Parce que, enfin voilà, elle a trouvé que le film était tellement bon qu'elle a dérogé à sa règle. Voilà. Et faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite sur, en gros, on a fait regarder à des gens des films d'horreur, on a mesuré leur battement de cœur et Hérédité arrivait quatrième. Voilà. Donc selon cette étude qui a été postée, il faut que j'aille vérifier ça. Voilà. Mais sûrement en 2019, 2020 par là, 2020, c'est ça. Cette étude qui a été postée en 2020, c'est le film. Le quatrième film le plus flippant de tous les temps, sachant que le premier est pardon, je vais y arriver, Sinister, que Hérédité se retrouve quand même devant Conjuring 2, se retrouve quand même devant Babadook, devant It Follows, devant Paranormal Activity, et il est dépassé donc par Conjuring 1, qui je suis d'accord est le plus terrifiant de la saga, devant Insidious. Qui pour moi, enfin moi c'est pas un film qui m'a fait particulièrement flipper, mais soit, et devant Sinister, voilà. Enfin, pour le coup, Sinister est premier. Bref, vous avez compris. Et oui, sur le montage du film, dernière anecdote avant de passer à la critique, le premier montage faisait 3 heures. Et en fait, ils ont retiré à peu près 30 scènes. Voilà. Moi, je veux voir la version 3 heures, release de Aster Cut. Et voilà, il y a l'air d'y avoir des dingueries dedans, comme des plans séquences qui ont été retirés. Enfin, bref, voilà, je veux voir ça. Alors, où commencer? Où commencer? Déjà, c'est vrai que j'ai oublié deux trucs qui, pour le coup, moi, me viennent avec Hérédité. C'est un peu. Après, je pense que Aster s'est jamais érigé là-dedans. Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'il ait assumé cette étiquette-là particulièrement ou quoi. Mais en gros, il y a eu un nouveau genre qui a été lancé, notamment par A24, mais pas que. Hein, voilà. Mais je pense à It Follows, je pense au film de Robert Eggers, je pense aussi à Get Out qui rentre là-dedans. Voilà, donc un peu la vibe Jordan Peele, Eggers, Aster, David Gordon. N'importe quoi. Putain, j'ai plus le nom. David Robert Mitchell, voilà. Mais un peu cette vibe-là où on a appelé ça l'Elevated Horror. Voilà, c'est un terme qui est très contesté. Je suis pas là pour juger du terme, j'en ai vraiment rien à foutre. Moi, je sais juste que c'est un sous-genre de l'horreur qui me plaît particulièrement. Voilà, cette horreur assez psychologique qui pour le coup, moi, j'en suis assez friand. Voilà, et je trouve que Aster en est le maître absolu, clairement. Et voilà, donc il s'est jamais revendiqué comme, mais en tout cas, c'est quand même un des chefs de file de ce mouvement-là. Voilà, et je sais plus quel est l'autre point où je voulais en venir. Oui, c'est que Aster, dans ses scénarios, enfin, si vous verrez, moi, j'ai revu plusieurs fois ces films et en fait vous verrez que voilà si vous revoyez les films il y a un nombre de détails cachés mais c'est monumental en fait qui laisse prévoir la suite. En fait on se rend compte que surtout dans Hérédité voilà le film aurait pu s'appeler Inéluctabilité en fait, rien n'est laissé au hasard, c'est fou, vraiment. Quand vous regardez Hérédité, il y a des signes partout de ce qui va se passer. Enfin, ouais, vraiment, c'est. Ouais, peu importe ce que vous regardez, il y a notamment le signe du démon Paimon, voilà, qui pour le coup se trouve à beaucoup de moments qui en fait montrent que le plan, en fait, tout était prévu et que les personnages ne peuvent pas échapper. Il y a un destin, il y a une fatalité dans Hérédité et en fait, on ne peut pas y échapper. Et c'est ça qui est fou. Et en fait, quand vous regardez, je crois qu'il y a des vidéos, je vais vérifier en parallèle, mais je crois qu'il y a des vidéos qui s'appellent Hidden Details ou un truc comme ça qui reviennent sur les films d'Ari Aster notamment et pour le coup bah, qui sont absolument brillantes et qui vous font vous rendre compte à quel point le mec est brillant dans ses scénarios. Voilà, oui, c'est bon, j'ai la vidéo que j'avais en tête et donc pour le coup je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse d'aller checker parce qu'en fait c'est voilà c'est en vrai en regardant ça on se rend compte à quel point le mec est et comme dit Nicolette, à quel point le mec a tout prévu et que ce que je vous disais, à quel point le mec est fort pour vraiment bah, Ouais, c'est à quel point le mec est fort pour justement ce genre d'écriture, en fait. Voilà, le gars pense à tout, c'est impressionnant. Et donc, non, écoutez, je pense que la grande différence avec Midsommar, c'est que déjà, enfin, les grandes différences, c'est que déjà, il a pas peur de la nuit dans Hérédité. Il y a des scènes qui se passent de nuit. Ah, j'ai oublié, bien évidemment, dans les qu'est-ce qui compose le cinéma d'Ari Aster, la nudité, bien évidemment. Les gens tout nus, terrifiants, c'est. Oh, dans Boys Afraid, c'est pas si terrifiant, mais bref, allez, on verra la semaine prochaine pour ça. Mais non, non, mais oui, il utilise beaucoup la nudité, notamment pour créer de ce malaise-là. Et à la fin d'Hérédité, je trouve que la nudité est utilisée, mais de manière absolument terrifiante. Les vieux tout nus, là, ça me. Wow, vraiment, il y a eu ça aussi récemment dans X. Voilà, je trouve que dans le cinéma américain, dans ses films d'horreur, a tendance à vraiment à mettre des vieux à poil terrifiants et ça me plaît pas plus que ça. Je vous avoue, je préférais que les vieux soient habillés et voilà. Bon, après, des vieux habillés, il y en a qui sont quand même assez terrifiants. Je pense à Mulholland Drive. Voilà, mais juste des vieux gentils et habillés, c'est pas mal aussi. Non, plus sérieusement, je trouve que ce film est un vrai crescendo en fait. Voilà, effectivement, il faut être patient, mais en fait, petit à petit, il y a une tension, il y a une intensité latente. Il y a voilà, c'est une inéluctabilité ou voilà c'est ce mystère familial où en gros on comprend pas trop ce qui se passe, enfin vraiment ça monte dans tous les sens, ça commence à péter dans tous les sens en plus entre les membres de la famille, enfin voilà c'est bref c'est assez mystique, assez mystérieux. Voilà, il y a bon ce mystère qui en fait, si vous faites bien attention aux détails, bon bah voilà, on sait à peu près comment ça va se finir. Voilà, il y a vraiment, faites attention à chaque mot, chaque petit signe, tout est important en fait dans ce film. Voilà. Et en fait, on a dès le premier plan, moi je me suis fait assez claquer la gueule en fait, en vraiment dès le premier plan où tu te dis, bon bah ok, tu sais que t'as pas atterri chez n'importe qui en fait, tu sais que tu vas passer un bon moment parce qu'il y a vraiment de la maîtrise. Voilà, je pense à ce travelling qui est dans une pièce de la maison qui va se finir dans une maquette parce que la mère construit des maquettes et en fait, la maquette va devenir la chambre enfin la vraie chambre de la maison. Voilà, et en fait, c'est absolument brillant tout simplement. Voilà, et toute sa réalisation est brillante, je le disais, dans ce tempo, dans la manière dont il laisse tourner sa caméra, c'est jamais trop long, c'est jamais trop court, c'est toujours bien timé. Voilà, la gestion des plans séquences est juste parfaite. Et voilà, en plus, il sait offrir son lot. J'ai une scène, je pense que les gens qui ont eu Hérédité, vous vous en souvenez, voilà, mais si je vous dis la scène du poteau, bref, vous voyez tout de suite à quoi je fais référence. Et puis le plan qui est après cette scène-là, qui est waouh! Et en même temps, il y a vraiment un aspect. Déjà, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit qu'il y a quand même de la comédie, en tout cas sa vision de la comédie dans tous ses films. Voilà, comprends clairement ce que veut dire Aster. Je vois en quoi il voit de la comédie dans Hérédité et Midsommar, mais c'est très très noir comme humour vraiment, et pour le coup, ouais, c'est aussi un immense drame en fait. Et je pense que ce drame, s'il fonctionne aussi bien, c'est aussi parce qu'il est porté par une actrice qui est en état de grâce, qui s'appelle Toni Collette. Et voilà, les deux, de toute façon, les deux interprètes principales d'Ari Aster dans les deux films sont exceptionnelles, sont des immenses actrices. Et pour le coup, voilà, Toni Collette dans ce film, pour moi, vraiment, si elle a vraiment pas une nomination aux Oscars, tout ça, les grosses cérémonies, c'est parce qu'on sait comment ce genre de cérémonie traite les films d'horreur. Et voilà, pour moi, c'est pour ça qu'Aster n'a pas été nommé, tout simplement. Mais en tout cas, ça veut pas dire que c'est pas mérité. C'est totalement mérité, vraiment. Pour le coup, ça aurait été mérité, vu qu'elle ne l'a pas été. Mais ouais, Toni Collette mérite limite l'Oscar, en fait. Enfin, moi, je lui aurais donné très clairement parce que elle est absolument incroyable dans ce film. Elle est épatante, elle est terrifiante aussi, elle sait tout faire. Voilà, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'elle sait absolument tout faire. C'est un film qui va la pousser dans ses retranchements profonds, et pour autant, elle arrive quand même à s'en sortir. Donc pour le coup, bah je tiens à dire chapeau. Mais donc ça vaut aussi pour Alex Wolff. Voilà, je trouve, en vrai, pour tous les acteurs du film, hein, tout le monde est bon, mais Alex Wolff, il a un truc où il donne quand même un peu plus que les autres. Voilà, en termes d'engagement physique notamment, il donne quand même un peu plus que les autres. Je crois qu'il a assez mal vécu la scène où son personnage doit se péter le nez, ce qui est assez normal, hein. Vraiment dit comme ça, je pense que vous avez, enfin voilà quoi, enfin c'est assez évident en fait. Mais ouais, il donne, enfin il y a un vrai engagement physique, mais de tous les acteurs en fait, et voilà, c'est ça qui est fou en fait, c'est tout cet engagement-là, tout, bref, voilà, cet investissement qu'il arrive à insuffler à ses acteurs, la direction d'acteurs aussi, qui est absolument folle, et la composition de ses cadres, où il y a un truc qui est aussi assez clinique. Je vais pas vous dire que c'est dans un style de Kubrick, mais je trouve que, bref, c'est pas dans un style de Kubrick, mais c'est vrai qu'il essaye d'avoir une certaine symétrie, d'avoir une certaine une chirurgicalité, voilà. Donc non, c'est pas comme Kubrick, mais en tout cas dans l'intention de chirurgicalité, etc., on retrouve un peu les mêmes principes de cinéma chez les deux, appliqués très différemment, mais je trouve, voilà, quand même les mêmes principes. Et je dirais que c'est le film le plus axé horreur, voilà ce que les gens entendent par horreur, parce que l'horreur c'est très vague, hein, y a beaucoup de manières de faire peur, mais en tout cas ce que les gens entendent par horreur, je pense que c'est le film qui correspond le plus dans le film d'Ari Aster, voilà. Et bien évidemment, voilà, je conclurai en vous incitant, vous conseillant de regarder ce film, parce qu'il est absolument exceptionnel, parce qu'il est effectivement terrifiant, et que c'est un chef-d'œuvre, et que vraiment un premier long métrage comme ça, enfin c'est pas donné à tout le monde, très clairement. Allez, on va passer à mon film préféré d'Ari Aster, même si bien évidemment, bon, voilà, Hérédité est pas loin derrière. Voilà, je ne m'exprime pas encore sur Boys Afraid, tout simplement parce que j'ai besoin de le revoir pour le mettre dans mon classement Ari Aster, mais en vrai c'est exceptionnel aussi, mais bref, on en reparle la semaine prochaine. Et donc du coup, oui, on va passer à Midsommar. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties.
What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. Danny et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Danny est touchée par une tragédie. Attristée par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l'emmène avec lui à ses amis à un festival estival, c'est dur à dire, qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un film qui m'a absolument claqué la gueule, qui pour le coup m'a fait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties dans ma vie, tout simplement. Je n'avais jamais terminé un film avec cette sensation de mal-être là. Et en fait, si vous voulez, il y a des films qui font peur. Enfin, si vous voulez, Conjuring, moi c'est un film, je pense à parmi tant d'autres, hein, mais qui me terrifie. Mais en fait, ça me terrifie. Mais par exemple, voilà, si j'avais vu Conjuring au cinéma pour la première fois, j'aurais eu peur dans la salle, je serais sorti et voilà, je serais rentré chez moi normalement. Voilà, Midsommar, je me souviens quand je l'ai fini, j'arrivais pas à aller dormir en fait. Voilà, c'était qu'il y avait ce truc là, et en fait je trouve ça qui est assez, assez puissant dans le cinéma d'Aster, c'est que la peur, dans le sens où les gens l'entendent, où la plupart des gens l'entendent, la peur, je trouve que c'est quelque chose qui est vachement éphémère. C'est facile de faire peur sur le moment, mais c'est compliqué de faire peur sur le long terme et de garder la peur justement. Et voilà, il y a des très bons films d'horreur que j'adore et qui me font très peur, mais c'est vrai que c'est sur le moment. Après coup, je suis pas forcément terrifié. Bon, effectivement, après, quand vous regardez Conjuring, que vous terminez ça chez vous tout seul à 2h du matin, qu'il fait tout noir et que bon, c'est pas très rassurant, c'est sûr. Mais pour autant, voilà, c'est pas pour ça que je suis terrifié. Alors que Midsommar, quand je l'ai fini, il y avait ce mal-être, ce malaise-là, ce côté dérangeant qui m'a accompagné jusqu'à ce que je me couche et qui, voilà, qui n'a disparu finalement qu'avec mon sommeil, voilà, qui est resté avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. Et c'est pour ça que ce film m'a autant marqué, en fait. Tout simplement, c'est ce côté-là, c'est la première fois que je ressentais ça, ce côté dérangeant, ce côté mal-être qui m'a claqué la gueule, tout simplement. Alors après, là, je trouve... après même dans Hérédité, hein, mais là particulièrement je trouve qu'il y a une justesse d'écriture aussi, enfin voilà, des très belles idées d'écriture dans les personnages, notamment si vous regardez, hein, vraiment les personnages masculins, c'est pas des gens bien, vraiment. Je trouve ça très intéressant en fait que elle, la pauvre, elle se retrouve totalement isolée et tout, Dani je parle, et au milieu de Christian et de son groupe d'amis, parce que ils sont pas
super friendly avec elle, le seul qui est super friendly avec elle, en fait, bon, bah, il n'a pas des bonnes intentions. Donc, en vrai, voilà, la dépiction des personnages masculins dans le film est assez rude, vraiment, mais juste, je trouve, voilà. Et je trouve ça, j'en parlais ce matin avec un ami à moi, mais le truc incroyable avec Christian, c'est que c'est pas un mec, enfin, c'est pas quelqu'un d'horrible, en fait. C'est un con, mais c'est pas quelqu'un d'horrible, c'est juste quelqu'un qui est humain. Qui est con, vraiment, c'est pas quelqu'un de bien, mais c'est pas un mec qu'on a envie de détester, en fait. Enfin, c'est juste, voilà, c'est un peu le mec un peu basique de, voilà, il sait pas comment quitter sa copine, et du coup, ça devient un gros con. Mais c'est pas quelqu'un de méchant, fondamentalement, c'est juste un gros con, mais voilà, bref, mais du coup, c'est pour ça, il y a cette ambiguïté, pas cette ambiguïté, mais en gros, cette ligne-là qu'il arrive à ne pas franchir, en fait, et à pas tomber dans la vulgarité. Et je trouve ça assez fou, en fait, assez fort, ce qu'il arrive à faire. Et voilà, tout simplement, je trouve que c'est un personnage du personnage de Christian qui est très très bien écrit. Bien évidemment, le personnage de Dani, c'est plus intéressant parce qu'elle est traversée par ses traumas. Et en fait, il y a un truc. Mais ça, c'est en général dans la vie, hein, et puis même dans les films, en général, les réalisateurs rendent compte de ça. C'est que, en fait, bah, quand vous avez des traumas, il faut les traiter. Voilà, parce que si vous les refoulez en disant non, non, mais je vais bien, bah, ils vont forcément ressurgir. Et puis, ça, en fait, ça vous nique la vie. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais ça vous nique la vie. Donc, quand vous avez des problèmes, traitez-les vraiment. C'est le plus important. Ça peut être dur. C'est des moments très, très durs à traverser, j'en ai conscience. Mais pour le coup, enfin, si en fait vous ne vous occupez pas de vos problèmes, de vos traumatismes, et ça c'est un petit message, voilà, pour votre santé mentale. Si jamais il se passe des trucs dans vos vies très graves, faites-vous aider, n'ayez pas honte, mais surtout, enfin, il faut que vous traversiez les problèmes, il faut que vous autorisiez à ressentir les choses, voilà, même si c'est dur, même si c'est dur, mais voilà, autorisez-vous ça, parce que sinon, bah, vous allez finir piégé dans une secte au fin fond de la Suède. Non, peut-être pas, mais voilà, dans tous les cas, bref, ça n'apportera rien de bon, et je pense que ce film en témoigne parfaitement. Alors, bien évidemment, une des prouesses de ce film, c'est d'avoir fait un film d'horreur très très dérangeant, très très viscéral, qui se déroule exclusivement de jour, voilà, hormis des scènes de cauchemar, hormis une scène de rituel qui est dans la Director's Cut, mais qui n'est pas dans la version cinéma, qui est très cool d'ailleurs, hein, la scène de rituel, et de dispute après la rituel. Voilà, après le rituel, je trouve que c'est les deux meilleures scènes de la Director's Cut. Mais sinon, ça se déroule exclusivement de jour, et je trouve ça assez puissant, en fait. Et je dis pas que Hérédité n'avait pas une belle photo, parce que Hérédité avait une belle photo, mais là, je trouve qu'avec justement cet aspect de jour, cet aspect assez naturel, voilà, dans la nature, espace vert, puis même à la fin, avec toutes les fleurs, etc. Je trouve qu'il y a une véritable volonté esthétique, en fait, dans ce film, qui est différente de celle qu'il y avait dans Hérédité, mais qui pour le coup fait que visuellement c'est un film qui est absolument magnifique, et j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois au cinéma, du coup, notamment, bah, je l'ai vu plusieurs fois en version cinéma et une fois en director's cut au cinéma, et en fait, bah, de voir ça, voilà, dans des cinémas, c'est là où en fait je me suis rendu compte à quel point le film était beau, et notamment il y a une scène que je trouve extrêmement dérangeante qui fait éclater de rire beaucoup de gens, et je trouve ça trop rigolo comment les gens prennent cette scène. C'est la scène de sexe entre bon, je spoile pas, bref, la scène de sexe, vous voyez de quoi je parle, normalement, si vous avez Midsommar. Et en fait, ouais, c'est plutôt rigolo, en fait, à quel point elle est belle esthétiquement, en fait. Et je m'en étais pas rendu compte avant de voir le film au cinéma, parce que j'ai découvert chez moi. En fait, pour la petite histoire, bon, bah, en 2019, j'étais pas aussi cinéphile que je suis maintenant. Et en fait, il y a un ami qui avait vu le film et qui m'a dit, non, en vrai, il va pas, c'est un peu chelou et tout. Et en fait, j'avais vu chez moi, j'avais adoré. Et donc, plus tard, quand MK2 l'avait rediffusé, bah, pour le coup, je m'étais empressé d'y aller. En fait, je m'étais rendu compte à quel point visuellement cette scène est magnifique, et c'est encore plus perturbant parce que moi je la trouve très perturbante, cette scène, et du coup, oui, le fait d'avoir fait un truc super beau sur un truc aussi perturbant, je trouve ça, bah, du génie, en fait, parce que ça vraiment ça accentue le malaise, mais à un point monumental. Et pareil, je trouve que là, voilà, il y a ce sens du détail, hein. Je vous mettrai les deux vidéos sur Hérédité Midsommar, de la chaîne Heavy Spoilers, il me semble, mais je vous mettrai les liens en description, mais parce qu'elles sont superbes. Ça fait longtemps que je les ai pas vues, je vais les revoir, je pense, après l'enregistrement, mais voilà, qui en gros montre qu'il y a vraiment des détails partout. Et effectivement, voilà, je trouve qu'en termes de traitement des traumatismes familiaux, on a encore le starter pack, hein, les trois que je vous ai dit, voilà, traumatismes familiaux, plan séquence, et un film qui est extrêmement perturbant, voilà, et pour le coup, je trouve que c'est une masterclass sans nom, Midsommar, voilà.
j'adore la performance de Florence Pugh, mais Florence Pugh, c'est j'adore Florence Pugh tout court, en fait. Enfin, voilà, c'est... Bref, je n'ai pas de mots pour décrire mon amour pour Florence Pugh. Et pour le coup, oui, elle a commencé à donner des interviews où elle dit que... je ne sais plus si elle dit qu'elle regrette, mais oui, je crois qu'elle me dit qu'elle regrette un peu parce qu'en gros, elle a donné énormément d'elle sur ce film et on le voit, ça se voit clairement. Après, moi personnellement, j'aurais kiffé tourner un truc comme ça, j'aurais kiffé jouer là-dedans, m'immerger dans cette ambiance-là, dans ce truc collectif. Ça doit être une ambiance incroyable et j'aimerais trop tourner un film chez Aster et assister à un tournage d'Aster et voilà, de voir comment ça marche un tournage d'Ari Aster parce que ça a l'air extrêmement engageant mais en même temps extrêmement kiffant et voilà, moi j'aime bien voilà, en tant que spectateur et même parce que j'ai fait un peu de théâtre mais j'aime bien voilà en tant que spectateur et bon acteur c'est un bien gros mot mais quand je joue être titillé sortir de ma zone de confort et je pense que des projets comme ça enfin moi je signerai tout de suite en fait parce que voilà ce sera peut-être c'est peut-être un peu super éprouvant mais pour le coup je signe c'est comme un Possession par exemple après Adjani elle atteint des levels je sais pas si j'aurais été jusque là mais en vrai moi j'aurais été chaud de m'engager dans Possession par exemple parce que voilà c'est tellement un délire que ça donne envie en fait voilà de repousser ses limites d'aller sortir de cette zone de confort là de faire confiance à une personne pour nous amener dans sa vision dans son univers dans un truc qui a l'air hyper hyper particulier mais quand même et je trouve que Florence Pugh elle a parfaitement embrassé ça peut-être au péril de sa santé mentale hein, peut-être mais en tout cas elle a parfaitement embrassé ça et je trouve que c'est un film qui est plus abouti qu'Hérédité un petit peu plus parce que Hérédité est un chef-d'œuvre aussi un petit peu plus dans sa réalisation dans sa photo dans son jeu. Ah, je sais pas si je préfère Florence Pugh ou Toni Collette, c'est très très compliqué. Mais qui lui, par contre, dans son scénario, je trouve, est moins crescendo. Voilà. Et moins crescendo, c'est assez rigolo parce que vous avez un peu des rituels tout le long et puis des trucs qui se passent tout le long. Mais par contre, il y a un malaise constant, latent, ce mal-être, ce côté dérangeant, il est là constamment, il est tout le temps et voilà, il vous lâche pas d'une semelle. Et là où c'est intéressant, je trouve, par rapport à Hérédité, c'est que dans Midsommar, en fait, on a un drame familial, mais sans que la famille soit là. Voilà. C'est juste les fantômes de la famille qui pèsent trop. Et pour le coup, je trouve ça assez complémentaire avec Hérédité, où là, pour le coup, on est vraiment au sein de la famille. Mais là, pour le coup, c'est plus aussi un drame qui est centré sur le couple, sur les traumatismes. Bref, tout est bien écrit, en fait. Et j'aimerais avoir cette capacité à sublimer mes expériences traumatisantes les trucs de merde qui me sont arrivés dans la vie comme Ari Aster parce que j'écrirais des films de malade mais je l'ai pas c'est vrai que j'ai des idées qui me viennent après je suis pas forcément je sais pas si j'écris très bien mais en tout cas oui j'ai des idées de développer des scénarios par rapport à des événements qui me sont arrivés mais clairement je suis pas aussi doué qu'Ari Aster, j'ai pas son savoir-faire. En tout cas oui c'est comme Hérédité sauf que c'est en plein jour avec des très belle, une très très belle photo je trouve un peu moins horrifique premier degré même s'il y a des scènes très marquantes à regarder, je pense à la scène de la falaise notamment, je pense à la scène de sexe mais ça c'est autre chose et cette fin, faudra qu'on j'en parle après mais bref oui cet aspect je trouve beaucoup plus poussé d'Ari Aster qui arrive à vraiment déjà pousser pas les limites mais en gros pousser les standards qu'il avait mis sur Hérédité qui étaient déjà incroyablement hauts, il arrive encore à taper au-dessus je trouve que pour le coup c'est peut-être moins horrifique brut mais que par contre en termes de malaise latent, ce malaise Caster est un des seuls à maîtriser à la perfection selon moi, je trouve que c'est peut-être son plus, je sais pas, il y a Boys Afraid quand même qui est pas mal en termes de malaise hein, vraiment, mais je pense que Midsommar en tout cas c'est celui qui au premier visionnage m'a plus marqué sur ça et cette fin qui est absolument brillante où le film vient littéralement vous brainwasher en fait et c'est assez rigolo de voir qu'une personne sur deux qui a été interrogée pense que cette fin est heureuse alors que pas du tout en fait, juste pensez bien à la situation, la fin n'est absolument pas heureuse et c'est fou comment le film arrive à brainwasher les gens en fait, voilà je trouve ça absolument incroyable, voilà bref c'était aussi moi personnellement ce que je pense de cette fin mais en fait je trouve ça fou que juste autant de gens vraiment se disent ok là c'est une fin heureuse quoi, bref ça je trouve que ça témoigne parfaitement du génie d'écriture d'Ari Aster je pense que j'en ai assez dit sur Midsommar voilà. Et puis bien évidemment, vous voyez Midsommar, je sais qu'il repasse au MK2 Bibliothèque les 21, 28 et 29. Donc si jamais vous avez l'occasion d'y aller,
allez-y vraiment, enfin, vous ne le regrettez pas, c'est absolument, absolument formidable. Et voilà, regardez tout simplement du cinéma d'Ari Aster parce que c'est un des meilleurs réalisateurs en activité. Allez, c'est la fin de cet épisode, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vais vous dire du coup à la semaine prochaine pour la critique de Boys Afraid, voilà. J'espère que, voilà, comme je dis, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous si vous avez aimé. Et pour ma part, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la critique de Boys Afraid.